c'est des trucs là-dessus.
Mais c'est sur Warp
Record. Sur Warp, okay, ouais. Okay. Tu veux prendre ça?
Ouais, c'est ça.
D'accord. Hop. Hop, c'est bon. Voilà.
Merci, Paul.
Tiens. Merci. Ça, typiquement, c'est un groupe que je connaissais pas.
On est là, on visite, on tourne, on fait notre parcours psychogéographique et on se laisse amener par les rues de temps en temps. On arrive pendant des petits labyrinthes, mais ça va. Ouais. Bon, je te remercie et merci à toi. Ciao.
Salut. Merci.
Bonne journée, ciao.
Salut.
Salut.
Fin de la deuxième partie.
À suivre.
La semaine prochaine, on retrouve Paul et Raph et tous ceux et celles qui rentrent au 24 rue des Capucins.
Quand on a commencé, c'était que de la vente en ligne et du coup, j'avais aucun contact humain. Et le fait d'ouvrir le magasin, d'un seul coup, on se met à échanger avec les gens.
Je marche dans la rue, j'écoute de la musique c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, ça va être par période, etc. Mais mes grosses frustrations dans la vie, c'est quand je suis dans des périodes où je découvre rien.
On a passé pour enregistrer avec Chimia.
Ils nous ont demandé de faire cet enregistrement live dans la cave sous Bigou et de faire une petite interview qui sort sur un podcast qui s'appelle
La Caverne. Ça fait pas des masses d'écoute. Par contre, moi, un truc qui me plaît dans l'idée, c'est que ça va rester.
De jouer et de construire des morceaux, ou surtout d'écrire les textes, de la mettre avec du zik. Ouais, ça prend une énorme part de ma vie, quoi.
Est-ce que c'est une histoire d'éducation? Est-ce que c'est une histoire personnelle où, en tant que femme, on s'autorise ou pas à aller dans des genres musicaux qui sont peut-être moins faciles, moins accessibles? Est-ce qu'il y a un genre à associer à ça? Moi, je pense pas. C'est une histoire vraiment de résonance de ce que tu fais, la musique, et de là où tu trouves ton compte en termes de sentiments.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You fellow, but you fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shrew. You midsummer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not too near. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. What you do about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as the winter tail. Tight as Andronicus was bound.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
bonjour. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Ah,
aujourd'hui,
enfin.
Aujourd'hui, on va parler de Brève d'abord.
Ouais, puis après, ah tiens, on aura directement la chronique de Laurent Delabouze. On va commencer par ça, donc c'est cool. Personne continue.
Si, pardon, mais moi que je suis dans les trucs.
Après, c'est, après on aura une petite histoire sur Emmanuel Macron, ingénieur nucléaire, un peu foireux. Et puis, la musique, le communiqué des parents de S, le nouveau communiqué des parents de S, qui est plus ou moins sorti du coma. Encore de la musique, une interview qui nous vient de Grèce. Et puis encore un communiqué... Ah non, le communiqué des potes du même S.
Et du coup, bah vas-y, c'est toi qui commence.
Le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait de la lutte contre les inégalités subies par les personnes en situation de handicap une de ses priorités, c'était en 2017. Résultat, comme plus ou moins à chaque fois que Macron prend un truc en main, c'est toujours à peu près la même chose qui se passe. D'une part, les instances internationales finissent un jour ou l'autre par faire un petit commentaire. Le résultat, c'était il y a une semaine, le Comité européen des droits sociaux a épinglé l'État français pour violation des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Cette instance de contrôle du Conseil de l'Europe, chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne, considère que les autorités françaises n'ont pas adopté de mesures efficaces dans un délai raisonnable en ce qui concerne l'accessibilité des bâtiments et installations, logements et des transports publics. Et deuxième effet, quand Macron prend un truc en main, les personnes concernées elles-mêmes finissent aussi par prendre conscience de ce à quoi servent les promesses présidentielles et par en tirer les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui la 6e conférence nationale du handicap, au cours de laquelle il promet 70 mesures fortes qui vont déterminer les politiques du handicap dans les 3 années à venir. Mais c'est surtout la raison pour laquelle il l'a présidé devant une salle vide, puisque le collectif Handicap, qui regroupe une grosse cinquantaine d'associations de handicapés, regrettant un manque de concertation et d'ambition, boycottera ce rendez-vous. À boycotter, pardon, certainement cet après-midi ce rendez-vous.
Et donc on va continuer avec les Jeux Olympiques du SBEUL, où Solidaire Informatique, qui gère le décompte des points, a manifestement triché, puisque Lyon n'a reçu que 3 points pour son double casserolade avec fuite de ministres, barricadage de policiers dans l'INSEP. Et ben malgré tout ça, Lyon n'a été crédité que de 3 points au classement, ce qui place le Rhône en 22e du classement, ce qui quand même constitue un abus manifeste. Donc Solidaire Informatique, qui gère le classement, a été contacté pour savoir ce qui s'était passé, et ils ont botté en touche en demandant à Olivier Dussopt de venir faire un deuxième tour à Lyon pour que Lyon puisse se rattraper dans la course, mais aucune nouvelle sur ce décompte de points totalement frauduleux qui met Lyon à seulement 3 points, ce qui représente juste une casserolade, hein, 3 points.
C'est un scandale, il va falloir faire des réclamations.
C'est un scandale.
À mort l'arbitre.
Donc si vous chopez un militant de Solidaire Informatique dans une manif, n'hésitez pas.
Casserolez-le.
N'hésitez pas à lui dire ce que vous en pensez de ce scandale olympique.
Et puis, décidément, quand on sait pas trop quoi parler, on peut toujours parler des promesses d'Emmanuel Macron. Puisque pendant sa dernière campagne électorale, cette fois-ci, Macron avait promis que tous les profs seraient augmentés de 10% à la rentrée 2023. Or, selon un document du ministère de l'Éducation nationale qui a pu être consulté par France Info, ce sera finalement 5,5% en moyenne, malgré les annonces des derniers jours où le président voulait trop être le Père Noël des profs. Allez, encore une occasion loupée d'essayer de se faire pardonner un tout petit peu.
Turquie maintenant. Rafle policière. Au moins 126 Kurdes arrêtés 19 jours avant les élections. Plusieurs villes kurdes ont été ce mardi matin le théâtre d'opérations ayant entraîné l'arrestation d'au moins 126 personnes. Des mandats d'arrêt ont été délivrés pour 216 personnes dans le cadre d'une enquête basée à Diyarbakir, un peu moins de 3 semaines avant les élections du 14 mai. Les personnes arrêtées sont des journalistes, des politiciens, des avocats, des dirigeants syndicaux et des artistes. Une accusation systématique d'appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence le PKK, est citée pour justifier les détentions. Les journalistes et avocats figurent parmi les personnes les plus touchées par les arrestations. Des perquisitions ont été menées à Ahmed, Van, Urfa, Batman et Mardin. de l'Association des avocats pour la liberté, ainsi que dans les locaux du théâtre de la ville d'Ahmed, de l'Association de la culture et de l'art, de l'Association de la culture et de l'art de Mésopotamie. Au moins 10 journalistes, 25 avocats et de nombreux artistes font partie des personnes détenues. Alors, les noms des personnes détenues ont été divulgués. Alors, il s'agit notamment de Abdourahmane Gueuk, rédacteur en chef de la Mesopotamia News Agency, et de nombreux avocats. Cette opération a été menée alors que les élections présidentielles et législatives approchent, ce qui soulève des inquiétudes quant à la suppression de la dissidence et des voix critiques juste avant les élections. Pour tous ceux et celles qui luttent pour cette meuf des terres et pour son grand-père. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on commence avec une bonne nouvelle. Macron a décidé de conditionner l'obtention du RSA à 20 heures de travail hebdomadaire. Ça y est, ils vont finir par réussir à te faire bosser, toi. 15 ans qu'ils essayaient.
Wow.
Je déconne, ne nous fais pas une crise d'angoisse, tombe pas dans les pommes tout de suite. La loi n'est pas encore passée. Non, la bonne nouvelle, et c'est vrai, il y en a une, l'ancien ministre de la Culture, François Léotard, est mort. Dans ces circonstances, je me sens obligé de faire un rapide petit hommage en deux dates clés. 2004, 10 mois de sursis pour blanchiment et financement illicite d'un parti, en l'occurrence l'UDF. 2021, 2 ans de sursis dans l'affaire Karachi. Allez, bon vent l'ami, t'inquiète pas, la relève est assurée et je parle pas que de la mairie de Levallois. En parlant de François et d'UDF, des nouvelles de François Bayrou. Il sera finalement jugé le 16 octobre pour complicité de détournement de fonds publics européens entre 2005 et 2017, d'abord avec l'UDF et ensuite avec le Modem. Vous vous rappelez, hein, Bayrou ? Tu me fais pas les poches, hein ? Tu l'as moincé le nain ? Tu me fais pas les poches, hein ? Eh ben, il avait raison. C'est complètement con. On n'organise pas un cambriolage dans l'appart d'Arsène Lupin. Bon, attends, c'est quoi ce bordel ? C'est une chronique judiciaire ou c'est une chronique politique ? Même moi, je sais plus. Bon, allez, politique. À votre avis, qui c'est qui enfourche de nouveau sa monture, revêt une nouvelle fois son armure de chevalier de la Macronie pour venir cette fois défendre la démocratie ? Petit indice, il s'agit du héros du gouvernement du mois dernier, le guerrier inébranlable et imperturbable de la réforme. Vous avez trouvé ?
Dussault.
Bien joué ! T'as trouvé tout de suite, alors que j'avais un autre indice. Hein. Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué !
Bon, c'est parce qu'on vient d'en parler aussi, alors...
Exactement. Et donc, Olivier Dussopt arrive au galop pour porter secours à la démocratie. Et pour ça, il nous explique un peu ce que c'est, la démocratie. Je le cite. S'exprimer et manifester, ça fait partie de la démocratie. Vouloir en découdre, ça ne fait pas partie de la démocratie. Et il rajoute. Il y a une volonté de quelques organisations d'extrême gauche d'interdire de prise de parole ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est une drôle de conception de la démocratie. Bravo Olivier, c'est tout à ton honneur d'avoir une haute conception de la démocratie. Mais ça, ce n'était que les commentaires de l'interview qu'il a donné et qui évoquait plutôt la mise en place de la nouvelle loi immigration. Et voilà ce qu'il en dit, le grand démocrate, quand il parle de l'adoption de la loi. On va tout faire pour éviter le 49-3. Et il continue, mais cela fait évidemment partie des hypothèses. Après, on s'étonne de l'impopularité du gouvernement. Là, je pense qu'il est important de faire un petit point chiffré sur le président et sur l'affection que le peuple lui porte. Est-ce que Macron est vraiment devenu le président le plus impopulaire de la Ve République ? Attention, hein, c'est pas forcément gagné. Hein. On se rappelle que Hollande avait fait très fort, hein, déjà.
Ah, ça c'est clair, oui.
Alors voilà les chiffres. Hollande avait accumulé 77% de mécontents à la fin de son mandat. Pour l'instant, Macron est à 72% de mécontents. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que 72% de mécontents après seulement un an d'élection, là, c'est un record absolu. Bravo, champion. Mais en vrai, pas besoin de sondage pour se rendre compte du degré de haine de la population à l'encontre des membres du gouvernement. Dès qu'un ministre ou que Macron lui-même se déplace, il doit faire face à un comité d'accueil d'opposants armés d'insultes et de casseroles. On a vu Pape Ndiaye à Lyon. Et à son retour à Paris, exfiltré de la guerre comme un Américain de l'ambassade de Téhéran en 1980. Et ça y est, les premiers effets commencent à se faire sentir. Bérangère Couillard, secrétaire d'État à...
Vous savez à quoi?
Bérangère
qui? Réviser, hein?
Bérangère qui?
Bérangère Couillard.
Tu l'as inventé?
Non, pas du tout. Je vois que vous êtes très fort en ministre, en secrétaire d'État en l'occurrence. Secrétaire d'État à l'écologie, annule son déplacement.
Bah oui, bien sûr. Ouais,
annule son déplacement à Rochefort pour raison de sécurité.
Ah bah olé, la planète est foutue là.
On aurait pu la reconnaître.
En même temps que les ministres s'apprêtent à vivre dans un camp retranché, le ministre de l'Intérieur organise la riposte et, comme vous l'avez vu, a fait interdire les casseroles. D'un côté, pas besoin de casseroles pour Macron qui doit se bouffer un gros gratin de calban tous les soirs depuis un mois. Mais attention, conscient du ridicule, Gérald Darmanin a cru bon de préciser que ce n'est pas les casseroles en tant que telles qu'il a interdit, mais plutôt tout dispositif sonore portatif. T'as bien compris, hein? Donc la prochaine fois que tu pars en manif, il y a une certaine partie de ton corps, si tu vois ce que je veux dire, qu'il faudrait que tu laisses à la maison si tu veux pas te faire verbaliser.
Non, mais si on n'a pas mangé des haricots.
Pour finir...
C'était pas celle-là qu'on pensait.
Ah. Pour finir, en hommage à la lutte, après les casserolades, les manifs intersyndicales, les actions et les blocages, après les grèves et les manifs du soir, si, comme le dit Malatesta, l'anarchie, tout comme l'horizon, s'éloigne à mesure que l'on avance vers elle, les feux qui embrasent la ville le soir en ont un petit peu plus clairement éclairé les contours.
Oh là là, genre...
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Oh, t'as même...
Ouais, j'ai coupé le canon.
Ouais, d'accord. Ouais, je sais, des fois, je pourrais essayer de me décentrer un peu, de parler tout le temps de notre président de la République, mais c'est vrai qu'il...
Des fois, tu parles de Burkina Faso.
Ouais, c'est vrai. Ou alors de...
Président de la République.
Du nucléaire. Et bien là, par exemple, ça va être président et nucléaire. Vous vous souvenez quand donc notre président Manu avait présenté son plan eau à Serre-le-Barrage de la Serre, en tout cas à côté du lac de Serre-Ponçon. C'était le 30 mars dernier. Alors c'est vrai, sur le coup, personne n'avait fait très attention à ce qu'il avait dit, vu que tout le monde était surtout focus sur le fait qu'il essayait de parler de n'importe quoi, où il n'y avait pas le mot retraite, vu que c'était la première fois qu'on le voyait et qu'on l'entendait depuis tout le bordel de son historique réforme des retraites. Mais dans les jours qui ont suivi, quelques journalistes l'ont réécouté et ont remarqué que, encore une fois, il avait quand même dit n'importe quoi en suivant son inspiration. Et on sait que le président est généralement mal inspiré. Voilà comment le point, qu'on ne peut pas trop suspecter d'être l'organe officiel de Greenpeace, raconte le moment. C'est alors que, sortant visiblement de son texte, le président s'est lancé dans une courte digression, alors qu'il évoquait le secteur de la production d'électricité, donc dans le truc sur son plan eau, rappelant que le refroidissement des centrales nucléaires représente quand même 12% de la consommation d'eau annuelle du pays. Et donc là, ouvrez les guillemets, c'est le président qui parle. Sur le nucléaire, on doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d'investissement pour faire des économies d'eau et permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé, a promis le président. Stupeur dans les rangs des spécialistes. Et là, c'était encore le point qui parlait. Maintenant, c'est à nouveau moi. Et pour cause, il existe bel et bien des histoires dans les centrales nucléaires de circuits ouverts et de circuits fermés. Mais c'est la seule chose qui tient dans la phrase présidentielle. En résumé, aucun plan d'investissement n'est prévu, contrairement à ce qu'il disait. Heureusement d'ailleurs, parce que ça serait des travaux à peu près impossibles et extrêmement chers. Et heureusement encore, parce que ce passage de circuit ouvert à circuit fermé n'économiserait pas du tout d'eau, en fait, bien au contraire. Encore une fois, le président a une idée, il l'exprime, ma foi, immédiatement, persuadé qu'il est d'être expert en tout, et encore une fois, son idée, c'est de la merde. Petite explication technique donc. Alors figurez-vous que les réacteurs nucléaires doivent être refroidis en permanence, sinon, boum. C'est pour ça qu'on les construit soit au bord de la mer, soit au bord des fleuves ou des rivières. Les installations en circuit ouvert, les installations en circuit ouvert pompent 50 mètres cubes d'eau par seconde qu'elles rendent intégralement dans le milieu, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends l'eau et puis tu la rends, mais juste entre-temps, l'eau est quand même pas mal plus chaude. Les installations nucléaires en circuit fermé, elles ne pompent que 2 mètres cubes d'eau par seconde, contrairement à 50 les autres, et rejettent à peu près à la même température, sauf que là, c'est juste une petite partie de l'eau qui est rendue à la rivière, puisque 60 à 65% de l'eau utilisée, elle, est partie dans l'atmosphère sous forme de vapeur à la sortie des tours aéro-réfrigérantes. Alors 2 mètres cubes, c'est pas grand-chose, mais c'est bien par seconde. Donc, circuit ouvert, on rend toute la flotte, mais on l'a chauffée. Circuit fermé, on n'a pas chauffé l'eau, mais il y en a quand même plus de la moitié qui, entre-temps, s'est barrée. En France, sur les 56 réacteurs en fonctionnement, il y en a 30 qui sont en circuit fermé et 26 qui sont en circuit ouvert. Alors bien sûr, ceux qui sont au bord de la mer, parce que là, pour le coup, la mer, c'est très grand. Alors c'est pas grave de rejeter de l'eau un peu plus chaude. Il y a aussi les 4 réacteurs du Tricastin, les 2 de Saint-Alban et la moitié, c'est-à-dire 2 sur les 4 des réacteurs de Bugey, qui sont donc tous situés en bordure du Rhône. Donc on comprend, premier truc qui marche pas, un circuit fermé plutôt qu'un circuit ouvert, ça n'économise pas du tout l'eau, ça en dépense bien plus. Mais effectivement, tout le temps, et particulièrement pendant les canicules et les sécheresses, le circuit ouvert, où on rejette toute l'eau dans la rivière, mais on la rejette sacrément réchauffée, c'est quand même un peu comme un poison pour les fleuves et les rivières. Les rejets thermiques ont un impact direct sur la faune et la flore, réduisent la concentration en oxygène de l'eau et peuvent avoir des effets sur le développement bactérien, nous rappelle ainsi Jules Collet, le directeur général adjoint de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Et il précise qu'avec un débit de 50 mètres cubes par seconde, les petits animaux et les larves de poissons se trouvent aspirés et donc cuits. Des normes existent pour limiter ces rejets d'eau vachement plus chaude. Et là, bah, si on se souvient de l'été dernier, on se souvient bien du problème, c'est que ces normes, au moment où il se met à faire carrément trop chaud et où il n'y a vraiment plus beaucoup d'eau dans les rivières, on a le choix entre baisser, voire arrêter la production d'électricité dans la centrale, ou alors donner des dérogations. Des dérogations pour qu'on puisse balancer plus grandes quantités d'eau, plus chaude, et tant pis pour les poissons et les machins qui vivent dans l'eau, de toute façon, c'est pas nous, alors qu'est-ce qu'on en a à foutre ?
Puis c'est pas mignon
les poissons. Mmh. Bon, et puis c'est certainement pas nécessaire, vu que c'est sous l'eau, ça doit pas servir à grand-chose, de l'écologie à la Macron. Passer les réacteurs de Saint-Alban, Tricastin et Bugey de circuits ouverts à des circuits fermés limiterait la chaleur rejetée dans le Rhône et permettrait de résoudre ces problèmes de disponibilité qui commencent à apparaître. Mais bon, on en est justement à un moment où on se dit que on va avoir des problèmes de quantité d'eau vraisemblablement dès cet été. Et là, le nucléaire dépense déjà 12% de l'eau disponible dans le pays. C'est sûr que si on les passe en circuit fermé, ça va être plus. Par ailleurs, EDF précise aussi que, pour le coup, on ne rejette pas de l'eau plus chaude, mais on rejette des déchets pas cool, en particulier du tartre et du bois, qui, eux, se détachent des tours aéro-réfrigérantes pendant le processus et qui sont après rebalancés dans la rivière. Alors, deuxième question, c'est que cette transformation que Macron nous a promise, est-elle possible ? Eh bien, ça dépend, mais par exemple, la centrale de Tricastin, ben, il n'y a juste pas la place pour mettre la tour aéro-machin. La centrale est entourée d'un côté par d'autres installations nucléaires, de l'autre par un canal. Ça, c'est Olivier Dubois de l'IRSN qui dit que du coup, ça ne va pas être possible.
Il va être licencié.
D'autant plus que ouais, ça, il y a plusieurs citations de lui dans l'article sur Reporter, alors c'est possible que... En théorie, à part au Tricastin, c'est possible, mais c'est quand même des gros travaux de génie civil qui prendraient entre 5 et 10 ans et qui coûteraient des centaines de millions d'euros. D'après les études exploratoires menées par EDF pour la transformation des sites du Bugey, de Saint-Alban et du Tricastin. Ah oui, parce que la Cour des comptes vient aussi de rendre un rapport il y a une semaine ou deux là sur l'eau et le nucléaire. Et il semble que tous les trucs où il y a des ingénieurs macronistes qui n'arrêtent pas de répéter, il n'y a pas de problème. La Cour des comptes, pareil, qu'on peut pas tellement soupçonner d'être le porte-voix de Greenpeace, trouve que ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que de dire qu'il n'y a pas de problème. Mais alors voilà, quand même, EDF a quand même fait des études pour ces histoires, et ces histoires de passage de circuit ouvert en circuit fermé. et nous dit que la faisabilité technique et foncière est très complexe et difficile à mettre en œuvre. Les coûts sont très élevés, un coût d'installation de l'ordre de 500 millions d'euros et des coûts de maintenance significatifs qui restent à évaluer. Bon, conclusion de EDF, pas de transformation des circuits ouverts en circuits fermés, ça serait une idée pourrie. D'où une autre interrogation concernant l'annonce de Macron le 30 mars. Est-ce qu'il avait discuté un tout petit peu avec EDF avant ? Et bien là, c'est pas. Non, on n'est pas sûr. En fait, on se doute un peu que non. Mais toujours est-il que le reporter a interrogé EDF. EDF qui n'a pas répondu à la question, se contentant d'indiquer que, ouvrez les guillemets, on cite la réponse d'EDF, dans le cadre de la poursuite d'exploitation des réacteurs au-delà des 50 ans, EDF mènera des études en vue d'adapter ses centrales, y compris sur l'usage de l'eau, en cohérence avec les annonces du président de la République. On sent une phrase un peu gênée, et c'est pas que parce que j'y ai mis le ton. L'ASN et l'IRSN, donc l'Agence de Sûreté Nucléaire et la Radioprotection et Sûreté Nucléaire, ont indiqué à un reporter ne pas avoir entendu parler de ce plan avant le discours d'Emmanuel Macron. Reporter, du coup, a essayé de contacter l'Élysée. L'Élysée a dit oh, pff, allez voir le ministère de la Transition écologique. Et le ministère de la Transition écologique, ma foi, n'a juste pas répondu à la question, ce qui laisse supposer que, encore une fois, le président a pris une sorte de décision unilatérale et éventuellement qu'il l'a prise sur le moment. Alors voilà, Macron est donc ingénieur nucléaire comme il était épidémiologue en 2020. La prochaine fois, si on le laisse faire, il va peut-être qu'on ait un système de centrale avec les toilettes, vous voyez, situées au-dessus des réacteurs pour que le pipi et l'eau de la chasse d'eau puissent couler directement sur les réacteurs parce qu'il n'y a pas de petites économies d'eau.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, is a day. Beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come.
Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and me want go home.
Day, bizet, day, bizet.
Et oui, cette cette semaine, il n'y a pas qu'un vieux dégueulasse qui est passé de l'extrême droite à la droite dure qui est clamsé. Il y a aussi, ma foi, un chanteur magnifique qui, par ailleurs, a été un militant pour les droits civiques. Et c'était Harry Belafonte, qu'on vient d'entendre, dont je pense que c'est sa chanson largement la plus connue, qui s'appelle « Banana Boat Song ».
Canu Info.
Et donc, on va vous lire le communiqué des parents de Serge. Un mois après le tir de grenade qui a gravement blessé la tête de notre fils Serge, le 25 mars 2023, il faut que je mette le micro plus en face sinon vous ne m'entendez pas, le 25 mars 2023, je disais, lors de la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline, l'incertitude subsiste encore concernant son avenir. Selon les critères médicaux purement cliniques, Serge est sorti du coma. Cela signifie qu'il a entrouvert les yeux, mais nullement qu'il est réveillé. Les soins qui lui ont été dispensés depuis son arrivée à l'hôpital ont visé à juguler diverses lésions et infections. Celles-ci ont pour origine le tir de grenade dont il a été victime, mais aussi les conditions dans lesquelles les premiers secours lui ont été dispensés, sur les lieux même de la manifestation. Les forces de l'ordre interdisant aux pompiers et aux ambulances d'accéder aux personnes blessées pour les prendre en charge. Ces soins ont contribué à ce que l'état de Serge, qui reste d'une extrême fragilité, ne se dégrade pas davantage. Cela permet d'espérer son retour à la conscience, mais ce n'est pas encore le cas. À ce jour, il est impossible d'affirmer que Serge va retrouver ses esprits et l'usage de son corps, ses membres et ses sens, sa capacité de respirer et de parler, ou d'évaluer les séquelles de sa blessure, et une rechute infectieuse demeure à craindre. Son pronostic vital reste donc engagé, c'est pourquoi nous dénonçons toute utilisation qui pourrait être faite de la sortie de son coma. Serge est malheureusement fort loin d'être tiré d'affaire, prétendre le contraire serait un pur mensonge.
Radio Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des Canu Info du mercredi dans le Camion Info.
Dans le quartier d'Exarchéia à Athènes, ça fait maintenant plusieurs années que la lutte contre la gentrification s'organise. Même si la répression et cette gentrification à l'œuvre a fait beaucoup de mal au mouvement politique du quartier, les habitants continuent à s'organiser et les collectifs à se créer. Parmi eux, l'Assemblée de défense de l'Ophostréfi, du nom de la colline qui surplombe le quartier, un parc populaire aux allures de forêt, qui jusqu'à présent n'avait pour seul artifice qu'une petite cafétéria et qui est menacée de pompeux aménagements.
Το θέμα με το λόφο στρέφει είναι παλιό. Ξεκίνησε από την εγκατάλειψή του από το Δήμο Αθηναίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με μια...
Les enjeux autour de la colline de Στρέφη sont très anciens. Ça a commencé avec l'abandon de la colline par la municipalité et ça a continué avec une campagne médiatique il y a plus de 15 ans, comme quoi cette colline serait le repère de l'illégalité et du crime. Mais c'était évidemment un mensonge. La colline de Στρέφη a toujours été une colline pleine de vie, qui a toujours été un point central pour les collectifs et les groupes politiques autour, qui ont pris soin de la colline, l'ont utilisée comme un parc ordinaire, mais aussi pour accueillir leurs activités politiques. Et il y a 2 ans, un fonds d'investissement privé est arrivé en proposant généreusement de nettoyer, d'améliorer la colline pour 1 million d'euros et de la rendre ensuite à ses habitants. Pour nous, c'est évidemment un tissu de mensonges. On sait bien qu'une entreprise qui fait des investissements et des affaires dans l'immobilier n'est intéressée par rien d'autre que par ses propres profits. Et cette initiative est apparue alors que la gentrification dans le quartier d'Exarchéia s'intensifiait. Une gentrification, pour faire court, qui a commencé avec la hausse des prix des loyers. Et puis des immeubles entiers rachetés par des firmes pour les transformer en hôtels. Et puis le projet de métro, qui doit s'implanter sur la place Exarchéia et qui est pour nous le signe le plus fort d'une gentrification à l'œuvre. La ligne de métro fait monter la valeur de l'immobilier dans le quartier et ça a encore influé sur les loyers. Par ailleurs, la place qui était un haut lieu de rassemblement politique est maintenant grillagée et gardée par des flics anti-émeutes 24 heures sur 24. Un autre signe de la gentrification, ça a été l'expulsion de nombreux squats, et beaucoup de ces bâtiments sont devenus des appartements Airbnb. Et puis des magasins de hipsters ont éclos partout dans le quartier, avec des produits au prix incroyable. Et plus anecdotique mais symbolique du changement, les chiens du quartier. C'était un quartier avec des chiens errants, et les personnes qui avaient des chiens, c'était des anciens chiens errants. Maintenant, on voit des gens promener des chiens de race d'une grande valeur.
Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε για το λόφο περιφράξεις, κάμερες, security και
Pour revenir à la colline Streffy, si on considère les buts du réaménagement, on constate que les plans incluent des caméras, des portes, des clôtures, des points de sécurité, une billetterie pour entrer, des choses comme ça. Et après la première résistance que les habitants du quartier ont opposée au projet, les plans ont changé. Ça a été une première victoire pour nous. Mais on veut continuer de montrer que ce qui est vendu comme un aménagement nécessaire pour la colline n'est rien d'autre qu'un développement pour les besoins des riches et des touristes. Ça n'a pas à voir avec la colline elle-même, mais avec le genre de personnes qui vont y venir, avec la vision du maire sur Exarchéia et sur le centre d'Athènes.
Also, the goal is not final. It's not a Streffy Hill will be free in and of itself. The goal is always Exarchéia. The goal is the whole neighborhood.
Et le but n'est bien sûr pas exclusivement cette colline de Streffy. Le but est toujours plus globalement tout le quartier d'Exarchéia. La colline Streffy est un point de conflit parmi d'autres, mais la question de la gentrification ne commence ni ne finit avec des enjeux comme Streffy ou comme le métro. C'est un tout connecté qui a à voir avec qui est autorisé à aller où, quel genre d'espace public nous voulons et quel espace libre il reste à la fin.
Where we can go, where we can exist, what kind of public spaces we want, and what is a free space at the end of the day.
Η χρήση των δικαστήριων δεν ήταν στις αρχικές μας σκέψεις.
Dans cette lutte que nous menons pour la défense de Streffy, la voie légale n'était pas l'idée première. Mais depuis l'arrivée de la police et leur installation sur la colline dans une zone clôturée où des flics anti-émeutes montent la garde tous les jours depuis le mois d'octobre, depuis ce moment-là, c'est devenu compliqué pour nous de protester de la même manière qu'avant. Donc on a décidé de se lancer sur le terrain juridique parce que même la façon dont le maire a ouvert la porte à ce fonds d'investissement Prodea est illégal, notamment parce que la colline est une forêt et que la municipalité n'est pas censée faire ce qu'elle veut avec. Il y a notamment des questions d'érosion des sols et d'inondation. Les arguments légaux sont assez forts, mais même devant la justice, les recours se sont enchaînés et nous n'avons toujours pas eu l'occasion de développer ces arguments devant le tribunal parce qu'il y a toujours des reports, des nouveaux délais, on nous renvoie devant un autre tribunal. De fait que l'on n'a toujours pas exprimé le fait que ce pourquoi on se bat est de toute façon justifié par les lois.
Και το δίκιο που έχουμε. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει το λόγο αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι της γειτονιάς.
Maintenant, on a de plus en plus de personnes qui rejoignent le collectif parce que des travaux ont commencé. Les gens commencent à réaliser que quelque chose va se passer, que ce que l'on dit depuis deux ans sur la gentrification, sur les modifications du quartier, se déroule sous leurs yeux. C'est sûr que l'on a besoin de cette mobilisation massive. Pour notre vision à long terme, nous n'avons pas de but spécifique avec un plan, c'est une lutte qui se crée au jour le jour avec notre présence sur la colline, avec la communication que l'on peut en faire, etc. C'est sûr qu'ici, à Exarchéia, il y a des racines profondes de lutte et d'organisation politique qui ont laissé une histoire. Mais il n'y a pas que ça qui nous a fait naître. Justement, c'est un quartier qui a cette caractéristique que les gens qui vivent ici ont été plus formés politiquement qu'ailleurs, par des AG de quartier, des débats, des interventions, tout ça à une échelle de quartier. C'est aussi ça qui a créé notre collectif et qui contribue à ce que les gens s'organisent entre eux. Ce terreau et cette histoire n'ont pas agi comme une structure préexistante, mais comme un climat général propice aux discussions et à l'organisation.
This assembly was created
by people from the anarchist space.
L'Assemblée de défense de l'OFO Strefi a été créée par des personnes issues des dynamiques anarchistes historiques dans le quartier. Mais cette assemblée, et même la plupart maintenant à Exarchéia, est multigénérationnelle. Il n'y a pas que des gens de 20-30 ans. Ce ne sont pas que des étudiants ou que des personnes qui vivent ici depuis plus de 20 ans. C'est sûr que l'on a les vieux anarchistes qui viennent, parce que c'est Strefi et parce que c'est Exarchéia, et qu'ils ont une certaine connaissance, une certaine expérience. Et ensuite, les étudiants viennent pour leurs propres raisons. Et ensuite, d'autres gens, peut-être parce que leurs amis sont là, ou parce qu'ils promènent leurs chiens sur cette colline.
And then students will come for their own reasons. And then other people will come because their friends are there, or because they walk their dogs in Strefi.
Et de mon point de vue, je pense que l'histoire politique d'Exarchéia a beaucoup aidé, comme un lien initial entre les gens, mais à la minute où le collectif a été créé, c'est devenu sa propre histoire, en ajoutant sa part aux politiques dans le quartier. Pour moi, c'est quelque chose de très beau et qui a contribué à mettre beaucoup de personnes à l'aise.
That is something that for me is very beautiful and has been making a lot of people feel comfortable. And this is beautiful.
C'était donc Bad Kids original. On va donc vous lire le communiqué numéro 4 des camarades de Serge, le défi de l'autonomie. Notre camarade Serge se bat pour revenir parmi nous. Il le fait avec une détermination implacable. Ce combat qu'il mène, que nous menons, contraste drastiquement avec l'ambiance de fin de mouvement que l'État par arrogance, la répression et la promesse du pire tentent de faire avaler aux gens en lutte. Alors je saute un peu des parties, il est très long. Les initiatives de déportement dont la face émergée brille de mille feux de poubelle dans les rues, se fabrique dans le mouvement, à l'occasion des rencontres opportunes et d'organisations collectives concrètes pour donner de la force à toutes celles et ceux qui luttent aujourd'hui. L'auto-organisation des prolétaires, qu'il s'agisse de coordination, de réseaux, de collectifs, de groupes, nous permet d'imaginer la suite, loin du tempo imposé qu'on vomit à chaque dispersion. Le risque dans le moment actuel est de perdre, le risque dans le moment actuel est de se perdre de vue, que la vague ne se retire et que chacun échoue dans son trou. La semaine du 1er mai s'annonce comme un moment important et il ne tient qu'à nous d'en faire une rampe de lancement pour construire nos forces. Nous ne nous poserons jamais en centralité à rejoindre pour la simple et bonne raison qu'un mouvement sans tête ne se dissout pas et qu'une direction qu'impose son apparat radical finit toujours par avoir ses propres intérêts opposés aux nôtres.
La trahison s'impose comme funeste destin, et avec elle, la répression tout azimut de ceux qui donnent de la force au mouvement. Nous le répétons, qu'importe le régime, le gouvernement de la vie capitaliste contre lequel on se bat aux quatre coins du monde, aucune concession ne nous sera faite. Renforcer nos capacités d'auto-organisation par le biais d'assemblées autonomes, de réseaux de lutte, de groupements spontanés, qu'importe la forme tant qu'elle est horizontale, est peut-être le défi qui s'impose à nous aujourd'hui. Il s'agit là du défi de notre autonomie pour ne pas avoir à subir les généraux de mouvement et leur encadrement. Nous ne serons jamais des bons petits soldats. Nous réitérons notre appel à action de la semaine du 1er mai et nous nous engageons à en faire le relais à la façon la plus efficace possible pour que chacun, selon ses besoins et ses moyens, puisse y participer. Force aux petits du 20e que la police a essayé de tuer. C'est rapport à une histoire à Paris de jeunes qui se sont fait portiérer par une voiture de police.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Est-ce que tu peux expliquer portiérer ?
Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une technique ?
C'est un verbe qui est dérivé du verbe pare-choquer, qui lui est un verbe classique en technique policière.
Classique dans la région lyonnaise particulièrement. Et du coup, la police parisienne, en gros, c'est une histoire. Il y a eu trois jeunes qui étaient sur un scooter d'une quinzaine d'années. La police a essayé de leur foutre un coup de portière pour les faire tomber du scooter alors qu'ils étaient en train de rouler. Ça n'a pas marché. Et je crois qu'après, ils ont été en effet pare-choqués pour le coup.
La police leur a fait, il me semble, plutôt une sorte de queue de poisson.
Ah bon. En tout cas, ils ont fini par réussir.
Qui est encore à l'hôpital, bien amoché. C'est la conductrice, elle avait 17 ans. Les deux plus petits, il y en a un qui s'est fait un petit peu mal sur le coup et qui, du coup, a fait une longue garde à vue. Et l'autre qui, ma foi, s'est fait bien mal aussi, mais qui lui est sorti de l'hôpital, en sachant, c'est ça, que tout ça pour le délit d'être à trois sur un scooter et de ne pas porter de casque pour l'un des trois.
Voilà, parce que comme on n'a pas de casque, la meilleure idée pour la police, c'est de jeter les gens par terre à pleine vitesse, parce que c'est une très bonne idée.
Par contre, le conducteur ou la conductrice de la bagnole de flic est quand même, pour l'instant, suspendu. Bon, voilà, l'IGPN a fait des gros yeux sur ce coup-là.
Alors que c'est un hommage à la souris déglinguée. À trois sur un scooter, on joue les gladiateurs.
Tu nous la chantes en entière ?
Non.
Moi, je voulais juste, avant de terminer, dire qu'il n'y a pas que à Sainte-Soline que les manifestants écolos se font bien ramasser. On a appris aujourd'hui que deux militants écolos à Londres qui avaient bloqué un pont. Alors, c'est vrai, ils ont réussi à le bloquer pendant plusieurs heures. Ils ont fait un gros embouteillage. Mais enfin, leur délit est quand même d'avoir bloqué un pont. Ont été condamnés aujourd'hui, l'un à 2 ans et 7 mois de prison et l'autre à 3 ans de prison. On a aussi appris, alors pas aujourd'hui, mais très récemment, que en Amérique, dans cette ville, je ne sais même plus laquelle, où il y a un projet de remplacer une forêt par une sorte de grand camp d'entraînement pour les flics, un endroit que ses opposants ont nommé Copland. Et les opposants en question, ma foi, font des trucs classiques comme des cabanes dans les arbres à l'endroit où ce camp doit être fait. Et au mois de janvier, les flics ont tué un de ces gars en disant... l'ont quand même tué, quoi.
Beaucoup de balles, ouais.
Oui, c'est ça. On a retrouvé aujourd'hui 56 balles dans son corps, ou 57. Toujours est-il que les flics avaient dit que, ma foi, il était l'initiateur d'une fusillade auquel eux avaient dû répondre pour défendre leur vie. Bon, l'autopsie ces derniers jours, non seulement a révélé qu'il y avait quand même vraiment énormément de balles dans son corps, mais a aussi révélé qu'il n'y avait pas de traces de poudre sur ses doigts. Alors, c'est possible que tous les auditeurs et auditrices de Radio Canu ne soient pas des familiers de l'utilisation des armes à feu, mais il semble, d'après l'article que j'ai lu, que c'est quand même globalement, si on tire...
Tu regardes pas de séries policières ou quoi ?
Ouais, c'est énorme. Mais moi je crois que c'était en 1900 qu'on avait des traces de poudre sur les doigts. Et ben non, encore aujourd'hui, si vous tirez avec un flingue, vous aurez des traces de poudre sur les doigts. Et donc le fait qu'il n'en ait pas, ça veut dire que les flics, ma foi, se le sont clairement payés.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu.
Mince, on a oublié de dire au revoir dans ces génériques.
C'était hyper bien.
Ah mince, putain, je croyais qu'il fallait qu'on dise au revoir avant de lancer le générique.
On va dire au revoir.
Puis putain, la semaine prochaine.
Au revoir la semaine prochaine. Putain, pour une fois que j'avais réussi et tout.
C'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info du mercredi.
retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.